Court-circuit.
Court-circuit.
Les doigts dans la prise.
De conscience écologique. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Court-circuit, le programme écolo mais rigolo de Radio B, propulsé par le collectif Court-circuit, un collectif qui regroupe des associations et des gens qui ont envie de faire du truc en lien avec l'écologie et le Lab 01. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Alex.
Bonjour.
Anne-Sophie.
Hello.
Guillaume.
Salut.
Et je suis Mathilde. Alors ça y est, c'est les vacances, on se détend, on est bien. Alors on vous propose un sujet léger, mais pas du tout. Aujourd'hui, on pose la question qui fâche. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ? Alors certains y renoncent pour ne pas ajouter un petit pollueur de plus à la liste des pollueurs que nous sommes. D'autres ne veulent pas porter la responsabilité de mettre au monde un enfant dans le chaos généralisé qui s'annonce. Pour ensuite lui dire « bon bah vas-y, débrouille-toi ». D'autres encore n'en sont pas là et affirment que c'est leur droit. Après tout, comment préserver la génération future si elle n'existe plus ? Ne faudrait-il pas donner naissance à des milliers de petites Greta Thunberg pour changer les choses ? Alors on vous propose d'examiner ces questions aujourd'hui et il se trouve qu'en plus ici autour de la table, il y a les deux teams. Les avec enfants et les sans. Devinez qui boit le plus d'alcool ? Bon, cherchez pas, c'est moi. D'accord. Alors, on a choisi deux approches pour commencer. Concrètement, est-ce que c'est bien de faire des enfants, Guillaume ?
Ben, on a beau être en plein été, je vais refroidir tout de suite l'atmosphère. Le constat, on est trop nombreux et surtout, on a un niveau de vie beaucoup trop élevé. On est en train de tout flinguer, tout simplement. Donc, depuis 1960, c'est ce qu'on appelle la grande accélération. La population est passée de 3 milliards à 8 milliards. Mais la consommation de charbon a fait x3. Pétrole x5, gaz x10 et même les animaux d'élevage x7. En gros, la consommation augmente beaucoup plus vite que la population. C'est, voilà. Et en plus, là, je vais parler un peu de la démographie. Il y avait une vidéo du Monde très intéressante qui est sortie. Elle parle d'un scénario fictif, une France qui passerait d'un taux de fécondité de 1,85 à 1,5, ce qui entraînerait seulement une baisse de la population de 5% d'ici 2050. Et en plus, il faut prendre en compte que la génération 40-60 ans, c'est celle qui émet le plus de gaz à effet de serre. Donc, ça ferait une hypothétique baisse des émissions de 1,7% en 2050. Or, ben, la France, elle s'est engagée à diminuer ses émissions de 80% d'ici 2050. En gros, diminuer la population, c'est difficile. Ça met des décennies. Si on veut, le seul levier qui est assez rapide, ben, c'est la baisse de consommation des plus riches. En gros, on est en urgence climatique, pas le temps d'attendre une éventuelle baisse de la population.
D'autant que l'hypothèse des Nations Unies, c'est qu'on passera de 9,8 milliards en 2050 et 11,2 milliards en 2100.
En plus.
Anne-Sophie.
Ouais, moi, je voudrais vous parler de travaux qui ont un moment maintenant, parce que ça date de fin 18e, début 19e, et qui disent qu'en gros, on se multiplie. On est toujours plus nombreux, ce que tu disais, Guillaume, sur la planète. Alors que, au niveau production agricole, à la limite, on peut en augmenter un peu, on additionner quelques terres, mais on va vite être limité. Et donc, ces théories, c'est ce qu'on appelle maintenant le malthusianisme. Donc de Thomas Malthus et donc qui prône le fait de réduire le nombre de naissances pour justement pouvoir davantage contrôler et parce que forcément on est sur une surpopulation et donc ce qui fait qu'on a un déséquilibre croissant et qui va encore augmenter et donc avoir de plus en plus d'effets.
En poids pour la planète, un enfant qui naît aux États-Unis, ça équivaut à 130 enfants qui naissent au Bangladesh. Donc en fait, c'est aussi une histoire de répartition des richesses et pas seulement de nombre d'enfants.
Oui, tout à fait. Et du coup, c'est pour ça que quand il y a des débats sur arrêter de faire des enfants ou continuer, souvent, on n'évoque pas cette question de où naît l'enfant, la géographie, des parents et du pouvoir d'achat qu'il peut y avoir et de tout ce que ça implique comme différence. Un enfant au Bangladesh et un enfant aux États-Unis et le bilan carbone qui peut être largement différent.
On arrive assez rapidement sur des débats colonialistes, gestion des naissances d'autres pays. Enfin bref, c'est assez puant souvent. Mmh. Ça arrive souvent.
Absolument.
Moi, je voulais dire, la naissance doit être consommation. La naissance d'un bébé peut avoir des impacts sur l'environnement, Par exemple, les couches jetables peuvent mettre des années à se décomposer dans des décharges, et les produits de soins pour bébés peuvent contenir des produits chimiques nocifs pour l'environnement. De plus, la production de ces produits peut également avoir un impact sur l'environnement. Cependant, il existe des moyens pour réduire l'impact environnemental d'un bébé. Par exemple, vous pouvez utiliser des couches lavables ou des couches biodégradables pour réduire la quantité de déchets. Vous pouvez également acheter des produits de soins pour bébés écologiques qui sont fabriqués à partir de matériaux naturels qui ne contiennent pas de produits chimiques nocifs. À contresens, la naissance d'un bébé peut en avoir un impact positif sur l'environnement. Si les parents peuvent être motivés à adopter un mode de vie durable pour protéger l'avenir de leurs enfants.
Mais oui, est-ce qu'un célibataire égoïste peut devenir un parent responsable? C'est vrai que c'est une bonne question. Bon, je vous propose, parce que c'est un peu lourd là, hein, un petit moment de détente. Pour rester dans le thème de l'émission, j'ai sélectionné quelques devinettes de monsieur et madame. Oula. On va rigoler. Allez, on commence. Monsieur et madame Honnête ont une fille. Comment s'appelle-t-elle?
Honnête.
Je suis nulle à ça. C'est incroyable.
Malhonnête,
oui.
Oh, c'est chou. Non, Camille. Camille Honnête.
Ah là là là.
Alors attention, ouais. On va monter en qualité en plus. Hein. Monsieur et madame Hultou ont une fille.
Annule. Anne.
Anne Hultou.
Oui, Jeanne. Oui, mais Anne, ça marchait aussi. Allez, je t'accorde le point. Allez, celle-ci, elle est trouvable aussi. Monsieur et madame Zarella ont une fille.
Vous arrêtez là.
Vous.
Ah, c'était l'instrument, là.
Vous êtes là. Bon,
au Brésil, elle vous.
Non, on est plus dans le fromage, là.
Mo. Mozzarella. Donc, Momo.
Maud. Mozzarella.
Ah, voilà.
On continue. Monsieur et madame Cal ont trois enfants.
Calme.
Cal.
Il y en a trois en plus. Déjà, ah ouais, déjà un, on a galéré.
Attendez. Faut qu'on réfléchisse.
On voit qu'Anne-Sophie, elle est à fond.
Ça pourrait être Jean en premier.
Jean, ouais, ça commence souvent par ça. Ça
ouais. Vrai. Jean Décale.
Jean Décale.
Jean Dédé.
Anna, Lise et Mehdi.
Vas-y. Ah oui.
C'est complètement nul.
Bon, je vais. Allez, encore une petite dernière, qui est d'assez mauvais goût, mais bon, c'est l'été, on se lâche. Alors, monsieur et madame Égé n'ont pas d'enfants, comment ne s'appellent-ils pas?
Ah, elle est bien. Yves.
Oui.
Bien vu.
Sans transition, hein, revenons à des choses un peu plus sérieuses.
Comment on peut enchaîner après ça?
Mes propres nullités. On va examiner les choses de manière un peu plus philosophique maintenant.
Ouais, faut pas s'emballer non plus.
Ouais.
C'est un grand mot.
Après les monsieur, madame, faut pas non plus s'attendre à un truc de ouf. Hein.
C'est ça. Anne-Sophie.
Ouais, en fait, il y a parfois des débats, souvent même dans l'entourage ou de façon globale, sur le fait de ne pas faire d'enfants, c'est égoïste. Et moi, je voulais remettre tout le monde au même niveau et se dire que quoi qu'on fasse comme choix, on est égoïste. Qu'on choisisse de faire des enfants ou qu'on choisisse de ne pas faire des enfants, c'est de l'égoïsme. On fait des enfants pour avoir des gens, des petits qui nous ressemblent, avec qui on peut partager des choses, mais c'est un acte au départ qu'on souhaite nous. Et on choisit de ne pas faire d'enfant aussi par rapport à sa vie, à soi. Et je pense qu'il faut tous l'accepter et ne pas juger les uns les autres par rapport au choix. Et parfois, c'est des non-choix. Parfois, c'est subi, d'où le fait aussi qu'il faut faire attention quand on est face à quelqu'un qui, notamment, n'a pas d'enfant. Parce que un couple sur 10 a des problèmes de stérilité. Et parfois, j'entends des choses qui peuvent être dures à entendre pour des proches à moi, par exemple, qui n'ont pas pu. Donc voilà, c'était mettre tout le monde au même niveau et se dire qu'on n'est pas meilleur, qu'on choisisse l'un ou l'autre. C'est ce qu'on va faire derrière. Ne pas faire d'enfants, ça ne veut pas dire non plus qu'on n'en a rien à faire d'abord des enfants de nos proches et des enfants, des citoyens de demain. On peut tout à fait être intéressé par ce qu'on va laisser, par un héritage qui soit peut-être un peu plus philosophique, qui soit différent. Et de la même manière, quand on fait des enfants, il y en a pour qui, tu parlais de changement, il y en a, ça peut les changer profondément, en bien, en se disant, je vais faire quelque chose pour cette planète et pour mes enfants. Et puis, il y en a d'autres qui vont rester, voire même s'empirer dans de la consommation et se renfermer sur leur progéniture, mais pas forcément dans une logique de société et de faire société. J'ai lu, il y a Hannah Arendt qui disait pour elle que... au milieu du XXe siècle, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, de l'horreur de Caen, de tout ça, pour elle, c'est le miracle de la natalité qui nous a aidés à avancer, à créer de l'espérance dans la capacité qu'on avait de renouveler le monde en profondeur. Donc voilà, ça ne veut pas dire que je penche d'un côté ou de l'autre. Ça veut juste dire que au niveau des philosophes aussi, il y a eu beaucoup de débats. Et que c'est des sujets qui sont passionnants.
Tu parlais d'égoïsme, moi je parlerais peut-être plus d'individualisme en fait. Dans le fait de, si on décide de ne pas faire d'enfant, ça peut être pour préserver sa liberté ou faire une carrière. Ce n'est pas forcément quelque chose d'égoïste. Et y a aussi, on peut avoir aussi une approche féministe dans le fait de ne pas vouloir s'accomplir par la maternité et pas suivre ces injonctions-là quand on est une femme.
Ouais, t'as raison, c'est peut-être l'un des meilleurs mots que ce que j'ai utilisé. Ouais.
Oui, bon, je vais sortir un peu du débat et revenir un peu sur la planète, en fait.
Ah bah, écoute, avec plaisir. Mais,
non, mais j'ai lu dernièrement le dernier livre de Pablo Servigne et de Gauthier Chapelle, L'effondrement, et après, expliquer à nos enfants et à nos parents. Ils expliquent clairement qu'en fait, parler de surpopulation, ça permet d'éviter la remise en question de notre culture matérialiste, tout simplement. Moi, j'aurais presque rebaptisé le nom de l'émission. Il faut surtout arrêter de flinguer la planète pour sauver nos enfants, en inversant les termes planète et enfant, en fait, parce que voilà, proposer la surpopulation comme la cause du déséquilibre entre nous et la Terre, ça donne surtout l'impression d'éviter une remise en question de notre culture. Donc, faut-il ne plus avoir d'enfants pour que les adultes puissent continuer à prendre l'avion ? On peut se poser la question.
Eh bien, écoutez, si vous n'avez rien de plus à rajouter, je vous propose de clore cette émission. Vous pouvez réécouter cette émission sur les sites de Radio B, qu'on remercie beaucoup pour son accueil et sa confiance. Si vous souhaitez, auditeurs, donner des idées de sujets, écrivez-nous à courtcircuit@lab01.fr ou sur la page Facebook du Lab. On vous souhaite une très bonne fin d'été et on vous dit à la rentrée. Merci de votre écoute, à bientôt.
Merci.
Ciao.
Court-circuit.
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 Court-circuit. Les doigts dans la prise.
De conscience écologique.